Avec moi, s'il vous plaît, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12. Si vous me voyez de plus en plus comme un sapin de Noël en avant, c'est pas parce que j'aime les gadgets. Tout le monde sait que j'aime pas les babelles électroniques. C'est parce que les gens m'apportent leur adaptateur d'appareil auditif. C'est vrai. Fait que là, j'en ai un nouveau ce matin. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Mais c'est ça. C'est les technologies. On se transforme en sapin. On va prier ensemble. D'accord? Oh, Éternel, on vit à une époque de confort, Seigneur, et... Je dis ça à la blague, mais combien tu es bon, Seigneur, de pourvoir à toutes ces technologies, tous ces supports, Seigneur. Combien tu es bon, Père, de nous avoir placés dans ce pays d'abondance, Seigneur. Et lorsqu'on regarde à l'avenir, humainement, à vue d'homme, Seigneur, on a toutes sortes de raisons d'être inquiets. Mais notre espérance, à nous, notre espoir n'est pas dans ce que les hommes vont trouver comme solution, ce que l'avenir réserve. En principe, à la planète, Seigneur, notre espoir est tourné vers toi, Père. Et ce matin, à travers toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions, que ce soit la communion des frères et sœurs, que ce soit la chaleur de cet édifice, l'abri qu'il nous procure, Seigneur, que ce soit toutes ces technologies, à travers, Seigneur, les enfants que tu nous confies, à travers la louange, à travers les chants, à travers, Seigneur, ta parole que tu nous donnes pour former, consoler, guérir, transformer, corriger, Seigneur, nos cœurs. À travers, premièrement, le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, sur la croix pour nos péchés, et le don de ton Esprit, Seigneur, que j'ai reçu. Père, je compte tes bienfaits, tes bénédictions. Et je peux dire, Seigneur, avec une assurance ferme, que tu es un bon papa. Un bon Père qui veille sur moi, Seigneur, qui pourvoit et qui prend soin. Sois béni, Père, ce matin par cette assemblée. Nous sommes réunis pour adorer ton nom, t'adorer, Seigneur, élever ton nom dans nos cœurs, par nos lèvres. Nous sommes réunis, Seigneur, pour entendre ta parole afin que tu viennes nous parler, nous transformer, nous façonner à l'image de Christ, Seigneur. Et Père, nous venons ce matin chacun avec notre histoire. Certains d'entre nous sont submergés, Seigneur, submergés par l'épreuve. Comme un fleuve, Seigneur, l'épreuve les presse et semble les écraser, Seigneur. D'autres sont dans l'allégresse et dans la joie, Seigneur. Certains sont encore dans leur lune de miel, Père. Viens nous parler à chacun d'entre nous là où nous sommes, Père. Et si quelques-uns parmi nous, Seigneur, n'ont pas reçu encore la grâce de saisir l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers toi, Seigneur Jésus, pour t'accueillir dans leur cœur comme sauveur, viens ouvrir les yeux de leur cœur ce matin. Et qu'ils repartent d'ici, Seigneur, avec une source jaillissante de vie nouvelle en eux. Par l'Esprit Saint, Seigneur. Je te prie d'être avec mes lèvres, d'être avec mon cœur. Ces choses sont trop grandes pour moi, Seigneur. Elles sont trop profondes et trop mystérieuses, trop importantes, Seigneur, pour un être aussi petit que moi, qui lutte avec mes propres péchés. Alors, Seigneur, viens conduire par ton esprit et que ce matin, je t'en prie, Père, un miracle se produise à nouveau dans nos cœurs, que ta parole soit vraie ici et maintenant, qu'elle soit puissance de transformation pour nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on est en train de faire ensemble une série qu'on a intitulée « Dieu le Père ». J'avais à cœur cette série-là pour adresser des éléments de notre croissance spirituelle, de notre marche spirituelle. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre sur l'amour de notre Père Céleste. Je crois qu'il y a beaucoup de mensonges que nous croyons qui doivent être chassés de nos pensées afin de saisir combien notre Père nous aime, combien il prend soin de nous, combien il pourvoit. Ce matin, la prédication, ce que je vais vous partager, est important dans cette réflexion-là pour moi, parce qu'on va parler des corrections de Dieu. On va parler des châtiments, des corrections que notre Père envoie sur nos vies, nous donne. Je pense que nous associons cela énormément avec la colère. Nous voyons ça comme des choses à fuir. Mais ce sont des actes de bonté de la part de notre Père. Et ma prière, c'est que ce matin, des mensonges, dans votre vision, des corrections, des châtiments que Dieu apporte dans vos vies, tombent, et que vous voyez cela comme ils sont. Des actes de pure bonté, d'un Père céleste qui sait de quoi nous avons besoin, qui veut notre bien, et qui veut nous former à son image. C'est ma prière pour vous ce matin. Je vais lire dans la Semeur, d'accord? La Bible dite du Semeur ce matin, je trouve que le passage traduit là était un peu plus éclairant que le texte que je lis habituellement dans la Seconde. Alors, si vous n'avez pas la Semeur, puis c'est trop mêlant pour vous de voir toutes les petites nuances, fermez les yeux et écoutez la parole de Dieu attentivement. Je vais vous lire du verset 1 au verset 14. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous lassiez pas, que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, pour le moment, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un passage extrêmement touchant et édifiant pour celui qui comprend la parole de Dieu. C'est un passage éclairant qui nous aide à recevoir, à comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies, comment Dieu travaille dans nos vies. C'est un passage qui nous aide à comprendre et à accepter les souffrances que Dieu permet dans notre vie. Voyez-vous, un des plus grands privilèges d'un enfant qui est adopté, qui entre dans une famille, qui est accueilli par des parents qui l'aiment, en plus, bien sûr, d'avoir enfin un foyer aimant, un foyer qu'il considère, un des plus grands privilèges pour cet enfant, c'est d'avoir des parents qui vont le corriger avec amour. C'est d'être accompagné par des éducateurs qui sont là pour former son cœur, l'aider à interpréter, à comprendre les circonstances qu'il traverse dans la vie, lui apprendre comment réagir dans ces circonstances-là. Ne plus être orphelin, laissé à lui-même pour apprendre à réagir face à la vie, mais être accompagné par un père et une mère aimants qui vont l'instruire, le corriger, le châtier, pour l'équiper et le voir devenir tout ce qu'il doit devenir, le voir devenir fort et beau. C'est un des plus grands privilèges d'un enfant qui est adopté dans une famille qu'il aime. N'est-ce pas? Ne plus être seul, mais être accompagné, être guidé, être dirigé. Mais quel enfant apprécie la correction? Sur le moment, au moins. Quel enfant aime être corrigé? Quel enfant peut apprécier à sa juste valeur les corrections que ses nouveaux parents vont lui apporter, que ses parents vont lui apporter? Pourtant, même dans notre faiblesse, avec toutes nos imperfections, nous sommes capables de comprendre qu'un parent qui aime va corriger ses enfants, va instruire ses enfants, va reprendre, va arrêter. C'est une des plus belles preuves d'amour qu'un parent peut donner à ses enfants. Alors qu'un parent qui n'aime pas va ignorer, va laisser aller l'enfant à lui-même. Vous savez, m'investir quotidiennement dans la vie de mes enfants pour écouter, pour être attentif lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, des attitudes, des comportements, écouter leur histoire, comment ils ont vécu la journée, les relations avec les amis à l'école, les tristesses, les frustrations, leur réaction à travers ça, la manière dont on se parle à la maison, tout ça demande beaucoup plus d'énergie, bien souvent, que de laisser aller. Et c'est vraiment un témoignage de mon amour, de ma vision, de mon désir de les voir devenir, dans notre cas, un homme et une femme de Dieu extraordinaire. C'est un témoignage de notre amour, tout ce temps qui est investi pour les écouter, pour les reprendre, pour expliquer, pour instruire, pour appliquer l'Évangile dans toutes ces circonstances. Ça, c'est un gage. Ça, c'est un gage de mon amour pour eux. Et nous qui sommes profondément pécheurs, égoïstes et fourbes, bien souvent, on est capable de comprendre ces choses-là. N'est-ce pas? C'est la même chose avec notre Père Céleste. Notre Père Céleste nous aime pour s'investir, nous corriger et nous reprendre. Ce matin, ce que je veux faire avec vous, je veux adresser cette question des corrections, des châtiments de Dieu qu'il apporte sur nos vies. Je veux redresser aussi quelque chose par rapport à toute la vision de la colère de Dieu. Nous associons les corrections, les châtiments de Dieu à la colère divine. Et pour cette raison-là, nous avons tendance à fuir et à voir comme des interventions négatives dans nos vies, les corrections que Dieu apporte sur notre vie. Ce n'est pas ce que les Saintes Écritures nous enseignent. Les Saintes Écritures nous enseignent que si Dieu nous corrige, c'est un gage de son amour et nous devrions apprendre au fur et à mesure que nous avançons dans la vie à apprécier, et je pèse mes mots, à apprécier les justes et bonnes corrections que Dieu apporte sur nos vies. Dans le passage d'Hébreux 12, ce qui est fascinant avec le passage, c'est qu'ici, les corrections de Dieu englobent à peu près toutes les souffrances qui peuvent survenir dans nos vies. Le thème qui est développé dans le chapitre précédent, dans le chapitre 12, c'est cette idée des souffrances qui viennent sur nos vies. Voyez-vous, moi, je cherche à instruire mes enfants, lorsque je suis à mon meilleur, à travers toutes les circonstances de leur vie. Tout ce qui se passe dans leur vie est une opportunité pour moi, même si je ne suis pas souverain, souvent c'est pas moi qui les ai causés. Toutes les circonstances dans leur vie sont des opportunités pour moi pour les instruire, pour m'arrêter, les aider à comprendre ce qui s'est passé, dialoguer avec eux, discuter avec eux, ouvrir la parole de Dieu avec eux. Lorsque je suis à mon meilleur, chaque occasion est bonne pour les instruire. Et moi, je suis limité. Moi, je ne suis pas comme mon Père céleste, qui est souverain. Mon Père, à moi, est omnipuissant. Il est tout-puissant. Il est souverain. Notre Père céleste est au contrôle de toutes choses. Ce qu'il y a de fâcheux pour un chrétien, c'est qu'on est toujours obligé de dire en bout de ligne, Dieu l'a permis. Même lorsque c'est les conséquences de nos propres péchés. Comprenez? Souvent, on voudrait comme éviter puis dire, oui, mais écoute, tu ne vas pas blâmer Dieu pour ça, c'est les conséquences de ton péché. Moi, je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois où Dieu m'a préservé des conséquences de mon péché. Pas vous? Combien de fois j'ai dit, oh Seigneur, fais-moi grâce, préserve-moi. Puis il l'a fait! Il est souverain lorsqu'il ne le fait pas. Non? Nous croyons dans un Dieu souverain qui est au contrôle de toutes choses. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Dieu se sert de toutes les souffrances dans nos vies pour nous instruire, nous corriger, nous former. Et le chrétien n'a jamais l'opportunité de dire « Il n'y a pas une instruction ici pour moi » parce que nous savons que notre Père est souverain. Même lorsque ce sont des gens qui pêchent contre nous, même lorsque ce sont les conséquences de nos propres péchés, ou lorsque ce sont des situations circonstancielles où on n'a aucun être humain à blâmer, puis on dit, bon, là, j'ai pas le choix, là, je vais dire, OK, celle-là, je vais dire que c'est Dieu. Non! Quelqu'un a péché contre toi, si Dieu ne voulait pas que ça t'atteigne, il fait une crise de cœur avant de se rendre à toi, ça finit là. Non? Avant qu'il te frappe, on vient de changer la situation, on va prendre soin de toi. T'es plus une épreuve, on va prendre soin de toi. C'est ça? Mais nous associons les corrections de Dieu avec la colère. La Bible parle, et là je fais une longue parenthèse ici, d'accord? La Bible parle beaucoup de la colère de Dieu. Elle en parle beaucoup. La Bible parle beaucoup de la colère à venir, du Dieu de colère, du Dieu justicier. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Saintes Écritures, ceux qui ne connaissent pas Dieu, si vous avez commencé à lire la Bible, commencez par la Genèse. Puis là, hein, régulièrement, on entend des gens qui ne sont pas familiers avec les Saintes Écritures commencent à lire l'Ancien Testament. Puis à un moment donné, ils disent, moi je vais me tourner vers l'Ancien, le Nouveau Testament, Jésus, pas mal plus cool. Non, non, lisez comme il faut Jésus. Lisez-le attentivement. Rendez-vous jusqu'à l'Apocalypse. Et lisez comme il faut ce que Jésus annonce pour ceux qui ne viennent pas à Dieu. Dans mon avis, à moi, Jésus est beaucoup plus dur que l'Ancien Testament. Parce que les Saintes Écritures nous parlent d'un Dieu justicier. Les Saintes Écritures nous parlent d'un Dieu qui va rendre justice aux hommes. Et c'est bien comme ça. C'est une grâce extraordinaire de savoir que les hommes ne vivent pas dans cet univers comme s'ils ne rendraient des comptes à personne jamais, ou s'ils n'avaient que des comptes à rendre à un gros papa toutou, un gros Dieu d'amour qui dit, mais non, c'est pas correct si tu as violé 457 femmes cette année. C'est pas grave si tu as tué 2 millions de personnes. C'est pas grave si tu as passé ta vie à mentir, à frauder, à faire de la collusion, de la corruption. Ah, c'est pas important. Viens-t'en, je suis un gros papa gâteau. Non, Dieu merci. Dieu merci. Ce Dieu d'amour extraordinaire est un Dieu de justice. Et les Écritures nous parlent régulièrement de ce Dieu justicier qui va rendre justice. Quelle grâce d'évoluer dans un univers et dans une vie où nous savons qu'un jour justice sera rendue. Amen! Pour tous les viols, tous les meurtres, tous les mensonges, toute la débauche, toute la corruption, tous les abus. Un jour, justice sera rendue. Voilà la colère de Dieu. Et c'est vrai, la Bible nous parle d'un Dieu en colère contre le péché, en colère contre le mal. Les Écritures vont jusqu'à nous dire, en fait, que tous les hommes, nous sommes des pécheurs. C'est un des éléments les plus contrariants lorsqu'on commence à comprendre les choses un peu. C'est qu'en fin de compte, ce n'est pas juste contre Hitler que Dieu est en colère. C'est contre tous les pécheurs dont je suis. Lorsqu'on commence à lire les Écritures comme il faut et saisir l'Évangile, lorsqu'on commence à lire attentivement la parole de Dieu, on voit que Dieu nous place tous dans le même bateau parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des êtres fourbes. Vous comprenez, si c'était juste 10% de la population qui méritait le jugement de Dieu, on les mettrait en prison, ça finirait là. Le problème, c'est que les criminels se promènent partout, ils vont à l'église le dimanche. Il y en a plein ici. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous fourbes et menteurs. Et donc, les Saintes Écritures nous disent qu'un jour, tous les hommes devront se présenter devant Dieu et aucun d'entre nous, si vous pensez que vous faites exception, écoutez bien ceci, aucun d'entre nous va se présenter devant Dieu un jour puis Dieu va dire, « Hey, toi, là, je t'attendais-tu? Je t'attendais, ça va me faire du bien. Moi, je suis saint, toi, t'es saint, on va être deux, enfin. » Débarquez de votre piédestal ce matin, là. Il n'y en a aucun d'entre nous qui va passer comme ça, cette porte-là. Non, ce que Dieu va faire, c'est qu'il, s'il le faisait, il va ouvrir le grand livre, puis il va dire, « OK, on recommence, on passe ta vie jour après jour. » Cette semaine, je m'imaginais en train de piquer la bobine céleste, puis aller couper un petit peu des petits bouts. Tu sais, faire un petit peu de touch-up. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec la technologie. Et donc, les Saintes Écritures nous disent qu'un jour, chacun d'entre nous, nous comparaîtrons devant Dieu. Et si ce n'était pour l'intervention de Dieu, parce que nous sommes tous sur le même pied d'égalité, nous sommes tous sous la colère de Dieu. Voilà principalement comment les Saintes Écritures nous parlent de la colère de Dieu. Un Dieu qui est en colère contre le mal. Et ce mal-là sévit en chacun de nous. Mais voilà Dieu dans sa grâce. Parce qu'il est Dieu justicier et il est Dieu amour. Dieu dans sa grâce, dans la Sainte Trinité, avant même la création du monde, selon des desseins qui sont uniques à Dieu, avait conçu ce projet merveilleux où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendrait s'offrir en sacrifice. En sacrifice pour nos péchés. Et donc, lorsqu'on parle de colère, pour recevoir à notre place la colère de Dieu. Je vais vous lire quelques passages très, très rapidement ce matin. Dans 1 Thessaloniciens 1, dans Ésaïe 53 et puis dans Romains 8. Je vais juste vous les lire rapidement, d'accord? Vous pourrez aller prendre le temps de les lire un autre moment, peut-être. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, voici ce qu'il est écrit. « Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous étions tous sous cette colère et Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils qui est venu mourir sur cette croix pour nos péchés. Il est retourné auprès du Père et nous attendons aujourd'hui son retour. Tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, nous attendons son retour. car c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Dans Ésaïe 53, puisqu'on parle de châtiment ce matin, de correction, dans Ésaïe 53, au verset 4b, la deuxième partie du verset 4, et nous l'avons considéré comme puni. C'est un texte prophétique qui annonce la venue d'un Messie qui souffrirait, de Jésus-Christ qui souffrirait, et voici ce que le passage dit. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez bien ceci. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix. Un jour, Christ est venu et il a reçu la colère de Dieu. Il a reçu la colère de Dieu. Et à tous ceux qui décident de placer leur foi en Jésus-Christ, il nous est donné d'être préservés de ce jugement. Ce Dieu justicier qui rendra justice un jour a déjà rendu justice pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Le jugement qui m'attendait ne m'attend plus. Et il n'y a plus de condamnation pour moi. Romains 8, 1, dernier passage que je vous lis ce matin à l'extérieur d'Hébreux. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors, si vous n'êtes pas familier avec la Bible et vous voyez dans les Saintes Écritures le Dieu de colère, ce Dieu qui est en colère contre les hommes, ce Dieu qui s'en prend aux hommes, c'est cette justice divine, ce Dieu justicier qui un jour va juger les hommes pour tout ce qu'ils font. Et plutôt que de me réjouir en me disant « quelques gros méchants », quelques profiteurs du système qui se font des millions seront eux autres jugés. En lisant les Saintes Écritures, j'apprends tranquillement à avoir l'humilité de reconnaître que je fais partie du lot. Et plus je lis les Écritures, plus je découvre à quel point je suis fourbe dans mes relations quotidiennes. Je suis impie, méprisant Dieu plutôt que de chercher en lui la direction pour ma vie. Je suis égoïste dans mes rapports avec les autres. Mais voilà, ce Dieu justicier a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix et le châtiment qui m'était réservé a tombé sur lui. Et à chacun d'entre nous qui décidons de placer notre foi en Jésus-Christ, si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a deux semaines, le langage que j'ai employé, dans Jean 1, Jean parle d'accueillir le Fils, d'accueillir celui qui est venu nous apporter la vie. À tous ceux qui ont choisi de se reconnaître pécheurs et de voir en Jésus-Christ le seul espoir d'être préservés de cette colère à venir, tous ceux qui ont choisi d'accueillir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, vous pouvez avoir l'impression que j'ai partagé ça simplement pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Non, je l'ai fait pour tous ceux qui sont convaincus d'être chrétiens et qui croient encore qu'il y a un gros Dieu de colère qui se met constamment en colère contre eux chaque fois qu'il y a une épreuve qui vient dans leur vie. Vous ne comprenez pas bien l'Évangile si vous réfléchissez ainsi. Parce qu'à partir du moment où j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je suis devenu un enfant de Dieu. Le Père Céleste m'a adopté dans sa famille et toutes ses interventions dans ma vie, tout ce qu'il permet qui survienne dans ma vie comme souffrance, comme contrariété, comme frustration, comme conséquence des péchés des autres sur ma vie, comme réprimande qu'un frère va m'apporter, qu'une sœur va m'apporter. Toutes ces choses, c'est l'attention d'un père aimant qui veut instruire son enfant. Je ne suis plus sous la condamnation, je ne suis plus sous la colère de Dieu. mais je suis sous l'attention aimante d'un Père qui veut mon bien et qui veut former mon cœur. Alors, lorsque vous pensez à ce que Dieu permet dans votre vie et que vous avez de la difficulté à accepter cela en vous disant c'est Dieu qui me châtie, c'est Dieu qui me fait payer pour. Christ a payé pour tout ça. Peut-être qu'il vous punit. Peut-être qu'il vous reprend. Peut-être qu'il veut vous redresser. Mais vous n'êtes plus sous la colère de Dieu. Vous êtes sous les soins tendres d'un bon Père qui n'est pas indifférent et ne vous livre pas à vous-même, mais vous corrige et vous instruit. Hébreux 12, on va regarder quelques versets dedans. Regardez avec moi le verset 10. Hébreux 12, 10. L'auteur nous dit, « Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leur idée, dépendamment de votre traduction, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Hein, » L'auteur reconnaît que nos pères ne sont pas sans reproche, et moi-même comme père, je ne suis pas sans reproche. Il m'est arrivé de corriger mes enfants par erreur ou par irritation, par excès de colère. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie, nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Tout ce que Dieu fait comme correction, comme châtiment, tout ce qu'il permet comme souffrance dans votre vie, parce qu'il est souverain, Dieu le fait pour votre bien. Ma prière, c'est qu'on passe de la théorie ici dans votre esprit à vos cœurs. Comprenez, ces tunes-là, on les apprend très, très tôt dans une église comme celle-ci. Ça fait presque partie de notre credo de foi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bla, 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 bla. Ma prière, c'est que ça passe de là et que ça vienne ici pour que vous soyez capables en ce moment de considérer devant vos yeux des souffrances que Dieu permet dans votre vie. Et que vous soyez prêts à mettre ça dans la prière et dire, « Père, tu veux mon bien? Tu veux mon bien à travers ça? Comment peux-tu vouloir mon bien à travers cela? » Voyez-vous, c'est difficile pour nous d'accepter que Dieu veut notre bien parce que nous ne sommes pas nous-mêmes portés à chercher ce qui est bon pour nous. Le passage nous dit ici au verset 10 que Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. L'objectif de Dieu, c'est de nous façonner, de nous transformer pour que nous soyons comme lui, saints. Le problème, c'est que même si on sait en théorie qu'être comme Dieu, saint, parfait et juste, c'est probablement la meilleure manière d'être heureux. C'est pas ça qui nous intéresse. Le Seigneur veut nous conduire dans la sainteté, mais nous sommes profondément convaincus à différents moments que le péché nous procurera beaucoup plus de bonheur que le péché, que la sainteté. Maintenant, si je m'assoyais avec vous individuellement et je vous demandais, crois-tu vraiment que Satan est plus heureux que Dieu? Est-ce que tu penses vraiment que le diable est un être profondément heureux? Alors, vous diriez, ben non, ça doit être dans la félicité céleste. Ça doit être là que se trouve le bonheur. Le diable, c'est un junkie qui est accro au péché. Qui en consomme dans un processus d'autodestruction. Et il nous propose le péché pour nous accrocher. Et chaque fois que nous sommes attirés par le péché plutôt que par la sainteté, inconsciemment ou consciemment, nous pensons que le vrai bonheur et notre bien se trouvent dans la petite shot que le diable veut me donner. Pourtant, écoutez, si vous êtes des bons baptistes, vous savez que c'est Dieu qui est heureux. Mais c'est pareil avec nos enfants. Si je parle avec mon fils, puis je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, moi, je veux être ingénieur, je veux inventer des affaires, tout ça, tu sais. OK, fait que, écoute, il faut que tu maîtrises les mathématiques. Ah, oui, 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 il faut que je maîtrise les mathématiques. Tu veux dire, on va aller faire des devoirs? Non. Tu penses pas que tu serais plus heureux si ta chambre était en ordre, puis quand tu veux trouver des jouets, tu les trouvais comme ça? Ah oui, moi j'aime l'ordre. Viens, on va aller faire du ménage. On peut pas aller jouer au lieu. Dieu veut nous amener là où notre bonheur se trouve. Être comme lui. Juste, saint, bon, gracieux, paisible, fort devant les tentations, résistant au mal. Dieu veut produire dans nos foyers des couples qui s'aiment et qui sont gracieux. Dieu veut produire dans nos relations des relations saintes où il y a un don de soi, il y a de la générosité, il y a de la patience, il y a une capacité à voir comment le diable essaie de détruire puis résister à ces choses-là. Voici tout ce que Dieu veut produire dans nos vies. Il veut nous aider à avoir des finances saines. Qui ne veut pas avoir des finances saines? Ah, mais tu sais, je craque à chaque fois. Je craque. Parce que tu penses que le bonheur se trouve là. Alors voyez-vous, notre Père Céleste ne peut pas nous former et nous instruire simplement en nous expliquant les choses sur un grand tableau. On est trop d'hommes pour suivre la classe. C'est pas si simple que ça. Dieu est en train de réformer nos cœurs. C'est ça qu'il est en train de faire, frères et sœurs. Dieu est en train de réformer nos cœurs. Et il veut notre bien. Vous savez, des fois, on tombe sur la traque un peu trop facile, un peu trop rapide, de dire, ce que Dieu veut, c'est sa gloire. C'est vrai. C'est absolument vrai. Dieu fait tout pour sa gloire. Est-ce que tu crois profondément dans ton cœur que Dieu veut ton bien et que ton bien et ton bonheur se trouvent dans sa gloire? Est-ce que tu crois cela profondément dans ton cœur? Et quand Dieu dit qu'il veut et qu'il fait tout pour sa gloire et qu'il veut être glorifié dans ta vie, ton bonheur se trouve là. Il ne se trouve pas à aller consommer avec ton pusher du péché qui est un junkie lui-même. Le hic, c'est qu'on ne se détournera pas, on ne résistera pas par nous-mêmes à ces tentations-là. Nous n'apprenons pas simplement en étant dans une classe. Si c'était ça, écoutez, je vous dirais, faites juste votre culte, puis tout est réglé. On se revoit au ciel. Tout est là. Il y a tout écrit. Non, sa lettre est là pour transformer notre cœur, oui, mais nous aider à comprendre ce qu'il fait dans nos vies aussi pour nous transformer à son image. Et Dieu donc se sert de toute circonstance dans ma vie, de toute souffrance qu'il permet dans ma vie, d'un frère qui vient me voir, d'une sœur qui vient me voir, d'un collègue de travail, qui est une teigne, qui est une plaie, qui est un fardeau. Et mon Dieu souverain a permis qu'il soit là. Parce qu'il veut former en moi la sainteté. Parce que mon bonheur se trouve là. Revenez un petit peu plus tôt dans le passage. Au verset 4, voici ce qu'il dit. L'auteur dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ce que Dieu veut nous enseigner, à une autre manière de parler de la sainteté, c'est nous enseigner à résister au péché. N'est-ce pas? Une autre manière de nous apprendre à marcher dans la sainteté, c'est de nous apprendre à résister au péché. Mais l'auteur de la lettre dit ici, « Voici ce que Dieu attend de vous. Fixez les regards sur Christ, voyez comme il avait fait les renoncements nécessaires pour résister à toute tentation, à toute opprobre. Il a accepté toutes ces choses-là en comprenant ce que Dieu lui réservait. Et vous-même comprenez maintenant que vous devez résister au péché. Et Dieu, dans sa grâce, va permettre des épreuves, des souffrances sur votre vie par lesquelles il va façonner, il va forger votre cœur pour vous apprendre à résister au péché, à renoncer au mal. » Et son objectif, l'auteur nous dit un tout petit peu plus loin, quelques versets plus bas, c'est de produire en nous un fruit de justice, une vie juste et paisible. C'est ce que Dieu veut produire dans ta vie. Et comme ton Père est souverain, il utilise absolument n'importe quoi dans ta vie. Je vous donne un exemple vraiment simple. Peut-être trop simple, en même temps concret, je crois. Vendredi soir, je m'en vais reconduire 3 jeunes filles à une fête. Les filles vont rire de moi lorsqu'ils vont entendre ça. Je m'en vais reconduire 3 jeunes filles à une fête d'amis. Puis bon, c'était à des heures pas possibles, mais il allait avoir du fun. Ça allait être édifiant, tout ça. C'est super. Je m'en vais reconduire. J'assure que j'avais la bonne adresse. Je m'en allais à Saint-Alexandre. Et on est arrivé à Saint-Alexandre à 10h40, peut-être, tu sais. Hein? Il était tard. Il était tard pas mal. J'étais fatigué. Puis bon, OK, c'est à cette heure-là que ça commence. Ça va me faire plaisir. Oui, c'est beau. Je vais me coucher plus tard. C'est correct. C'est beau. Fait qu'on arrive, on stationne. Je savais que c'était là parce que j'étais allé à la même place l'année dernière pour les reconduire. Je cognais à la porte parce que toutes les lumières étaient fermées. C'est étrange. Il y a une jeune fille qui vient me répondre et qui me dit « Non, il n'habite plus ici depuis longtemps. » Fait des téléphones, réveil du monde à cette heure-là pour pouvoir trouver c'est quoi la vraie adresse. « Ah, c'est à 40 minutes plus loin. » »« Ah, OK, c'est le fun. » Savez-vous quoi? Pendant tout le voyage, j'étais pas de bonne humeur. Et je cherchais dans mon cœur qui est le coupable. Les filles, j'ai pas trouvé de coupable, d'accord? C'est qui le coupable? Ben, c'est peut-être moi. Je suis venu les reconduire à cet endroit-là l'année dernière. J'avais l'adresse. Ouais, mais ma fille, elle me dit non, mais je savais même pas qu'il avait déménagé. Mais voyez-vous, j'avais un problème. C'est qu'intellectuellement, j'arrivais pas à trouver de coupable. C'était comme des choses qui arrivent des fois. Mais je n'étais pas content que ça arrive. Et donc, la seule personne que je pouvais blâmer, c'était Dieu. Le Seigneur m'avait permis d'avoir la grâce de prêcher. Tu sais, c'est fatiguant de prêcher, vous t'étudiez, vous tu médites. Puis là, j'avais médité là-dessus cette semaine. Puis là, j'ai dit, ah oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux former mon cœur, tu veux que j'apprenne à me donner, tu me montres que je suis pécheur, que je suis égoïste, que l'irritation monte en moi. Ah! Vous comprenez? Ça aurait pu être des conséquences du péché de quelqu'un. Ça aurait pu être la faute de quelqu'un. Là, ça ne l'était pas. Ça aurait pu être des conséquences de mes propres péchés. Comme je vous ai dit, je ne peux plus compter les fois où Dieu m'a préservé des conséquences de mes péchés. Et lorsqu'il ne me préserve pas des conséquences de mes péchés, c'est Dieu qui décide de le faire. Hein? Ça aurait pu être absolument n'importe quoi, mais mon Père Céleste avait jugé bon de m'enseigner vendredi soir, dans sa souveraineté. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez comme souffrance. Dans votre foyer, dans vos relations, problèmes de santé, maladies. Vous n'êtes pas reconnu par vos proches comme vous voudriez être reconnu. Vous vous sentez méprisé. Perte d'emploi à certains, c'est ça. Relation difficile avec les enfants. Vous luttez avec des péchés que vous traînez dans vos vies depuis des années. Vous avez de la difficulté à résister. Vous dites, pourquoi c'est moi qui est comme ça? Pourquoi moi je suis dépendant comme ça? Je ne sais pas quelles sont les souffrances que Dieu permet dans votre vie. Mais oui, votre Père est souverain. Oui, il vous aime. Et oui, il veut vous transformer à travers ces épreuves. Et vous savez que ça vient de lui et qu'il y a une œuvre à faire chaque fois que la tentation vient dans votre cœur de pécher, de vous irriter, de grogner, de murmurer, de vous jeter dans un autre péché pour compenser parce que là, vous avez des frustrations, de vous en prendre à quelqu'un, de chercher des coupables. Quand vous voyez toutes ces choses-là se passer en vous, ou une de celles-là, sachez que Dieu est en train de vous travailler. Parce que ce qu'il veut vous apprendre, c'est à résister au péché. Et comme ça ne s'apprend pas dans une classe avec un tableau vert et une craie, il le fait par les circonstances de notre vie. Maintenant, je termine avec ceci. Qu'est-ce que mon Père s'attend de moi dans ces circonstances-là? Il s'attend à la même chose que je m'attends de mes enfants quand je les corrige. 1. On y va? Non? OK. Tu t'es endormi sur le bouton? Mon Père s'attend de moi la même chose que j'attends de mes enfants, d'accord? J'attends de mes enfants lorsque je les corrige et que je m'assois avec eux puis que je leur dis, regarde, est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de travailler ici dans ta vie? C'est pas dur de trouver ce que Dieu est en train de travailler. Écoutez le péché qui veut monter en vous, vous savez ce que Dieu est en train de travailler. Les pourquoi, là, ils trouvent des réponses très, très vite. C'est où que tu as le goût de péché? En réaction à ça? Regarde, c'est ça que Dieu veut travailler. Et mon Père s'attend à ce que je comprenne ce qu'il est en train de travailler, à ce que je me soumette à son intervention dans ma vie et à ce que je collabore avec lui afin d'apprendre la leçon qu'il y a à apprendre. Mon Père s'attend de moi à ce que je ne me décourage pas devant ces souffrances-là, mais que je comprenne que dans sa bonté, il ne permettra rien qui est au-delà de mes forces. Mon Père s'attend de moi à ce que je me soumette à ses corrections. C'est ce que l'auteur nous dit dans ce passage. Et c'est ce que j'attends de mes enfants. Frères et sœurs, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous n'êtes plus sous la colère de Dieu. Vous n'êtes plus sous la colère de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour vous. Et si tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, je t'en prie. Je t'en prie. Viens te mettre à l'abri de la croix. Viens placer ta foi en Jésus afin de ne plus être sous la colère de Dieu. Mais si vous l'avez fait, vous avez un bon Père. Et vous savez qu'il vous aime parce que votre adoption a coûté le sacrifice de son Fils. Et il vous a donné son Esprit qui habite en vous. Ne doutez pas de ses châtiments et de ses corrections. Acceptez-les. Soumettez-vous. Collaborez avec lui. Il veut votre bien, vous conduire dans la sainteté. On va prier ensemble. Père, ta parole est parfaite, elle est merveilleuse, Seigneur. Seigneur, que tu puisses me faire comprendre ces choses à moi qui suis tellement, 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 Seigneur, pas prompt à aller vers la sainteté, Seigneur. Si souvent enveloppé, comme le dit l'auteur, enveloppé par le péché. Je n'ai pas appris encore, Père, à résister jusqu'au sang, au péché, à ses tentations, à ses propositions. Mais tu es un bon Père qui veille sur moi. Donne-moi des yeux pour voir cette semaine, Seigneur, comment tu es en train de me corriger. Donne-moi un cœur d'enfant pour accepter que tu connais ce qui est bon pour moi, que tu veux mon bien, Seigneur. Enlève les doutes de mon esprit, Seigneur, qui m'amène à te voir comme un Père colérique, un Père qui agit par colère contre moi, Seigneur. Enlève les doutes. Affermis en moi cette conviction de l'Évangile que tu m'aimes, que tu as donné ton Fils pour moi et que je suis ton enfant chéri. Merci, Père, pour tes corrections. Merci pour tes grâces. Je veux, Seigneur, être à ton image, saint, et porter des fruits de justice dans ma maison, dans ma vie, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie.